Maurice Bagder, qui s'est révélé au congrès des illusionnistes tenu à Paris en 1947, puis qui a donné toute sa mesure au congrès de Lausanne en 1948, n'a certainement pas la gigantesque mémoire de Mademoiselle Osaka. Cependant, son pouvoir de remémoration est également exceptionnel. De plus, ses capacités de calculateur mental, proprement dit, sont telles qu'il semble égaler et parfois dépasser Inaudi. Présenté à l'Académie des sciences, il a, entre autres opérations, extrait mentalement une racine cinquième en 14 secondes, une racine septième en 15 secondes, une racine cubique en 2 minutes 15 secondes, une racine cinquième en 2 minutes 3 secondes, 827 élevé au cube en 55 secondes. Dans ses expériences en public, les opérations arithmétiques qu'il effectue mentalement se chevauchent de sorte que les cascades de chiffres qui se déversent presque sans arrêt sur l'assistance forment un bien curieux mélange. Tout d'abord, une personne est invitée à donner son âge, puis 5 nombres de 2 chiffres sont proposés par le public. Peu après, le calculateur donne la puissance 3e du premier nombre, la puissance 4e du second nombre et la puissance 5e du troisième. Il s'arrête alors pour indiquer au spectateur qu'il a vécu tant d'heures, de minutes et de secondes et montre, par un calcul au tableau noir, qu'il a tenu compte des années bissextiles. Il enchaîne aussitôt en fournissant les puissances 6e et 7e des derniers nombres, ces deux résultats, remarquons-le, ayant respectivement 11 et 13 chiffres. Des opérations plus difficiles sont ensuite proposées. Élévation au cube de plusieurs nombres de 3 chiffres, puis extraction de racines. On donne par exemple simultanément un nombre de 15 chiffres, un autre de 19 chiffres, et enfin les dates du calendrier julien ou grégorien. Instantanément, l'artiste précise le jour de la semaine qui leur correspond, puis annonce la racine cubique du premier nombre et partiellement la racine cinquième du second. Il répond encore à quelques demandes de date. Enfin, il donne la racine cubique complète du second nombre. Des opérations analogues se poursuivent avec la plus grande célérité, entrecoupées par des réponses concernant les dates de la fête de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte et des phases de la Lune. À cet égard, Maurice Dagbert, alors qu'il n'était âgé que de 12 ans, a littéralement stupéfié le professeur Esclangon, mathématicien, astronome et membre de l'Institut de France, qui lui demanda « Mon jeune ami, dites-moi donc, à quelle date tombera Pâques en l'an 5 702 285 ?» Et l'enfant de répondre aussitôt « Le 22 mars », ce qui fut reconnu exact par la suite. Notons que souvent, au cours de ses exhibitions, M. Dagbert exécute au violon de brillants morceaux en même temps qu'il résout mentalement des calculs très compliqués. Ainsi, tout en jouant une fantaisie de trouvère d'une manière remarquable, nous l'avons vu effectuer mentalement l'extraction de 20 racines cubiques de 3 chiffres et une multiplication d'un nombre de 5 chiffres par un autre nombre de 5 chiffres. L'opération totale dura 7 minutes. En déposant son instrument, le calculateur donna d'un trait les 21 réponses absolument sans erreur. À aucun moment il ne s'était servi ni d'un crayon ni d'un papier, pas même pour noter le libellé des problèmes. Enfin, ayant été opposé en 1961 à une machine à calculer, Maurice Dagbert bâtit largement la machine en effectuant les calculs proposés qui furent ceux-ci. Élever 87 au cube, 57 à la 4e puissance, 38 à la 5e puissance, 71 à la 6e puissance et 99 à la 7e puissance. Réaliser les opérations 1961 multiplié par 1932, 64,632 multiplié par 55823,1516 sur 45 avec 4 décimales exactes. Traduire en jours, heures et secondes l'âge d'une personne ayant 51 ans, avec un anniversaire le 23 novembre 1961. 3 extractions de racines terminèrent cette série d'exercices. En ce qui concerne ces dernières opérations, elles furent effectuées en 3 minutes 43 secondes par le calculateur et en 5 minutes 18 secondes par la machine. l'imagination procède de démarches très simples. Là encore, il s'agit de développer certains sentiments et certaines pensées qui sommeillent en chaque être humain et qui doivent s'éveiller. Celui-là seul qui entreprend avec une patience totale, avec rigueur et persévérance, ces exercices simples, peut être amené par eux à percevoir des phénomènes lumineux intérieurs. Au début, il s'agit d'observer d'une manière particulière divers êtres de la nature. Par exemple, une pierre transparente aux belles formes, une plante, un animal. On cherchera d'abord à diriger toute son attention sur une comparaison entre la pierre et l'animal, et ce de la façon suivante. Accompagné par de vifs sentiments, les pensées qui sont évoquées ici doivent parcourir l'âme. Aucune autre pensée, aucun autre sentiment ne doit s'immiscer et troubler l'attention soutenue de la contemplation. On se dit alors, la pierre a une forme, l'animal aussi a une forme. La pierre demeure immobile à sa place, l'animal change de place. Niveau, c'est comme la différence entre voir la roche et y voir le mouvement à l'intérieur. Il n'y a pas de temps entre le mouvement des atomes et l'apparition de la roche qu'il crée. La roche est, alors même que les mouvements ont lieu. En effet, parce que les mouvements ont lieu. Cette relation de cause à effet est instantanée. Le mouvement se produit et la paire et la pierre est en train d'être, tout en même temps. Et un astronome demanda : qu'en est-il du temps ? Il répondit alors : vous voudriez mesurer ce qui dépasse toute mesure et ne se laisse mesurer, le temps. Vous aimeriez régler votre ligne de conduite, mais encore diriger le cours de votre esprit selon vos montres et vos calendriers. Et vous souhaiteriez faire du temps une rivière pour vous asseoir sur sa rive et le regarder couler. Cependant, ce qui est en vous est étranger au temps, c'est que la vie échappe au temps, et qu'hier n'est autre que la mémoire d'aujourd'hui, et que le rêve d'aujourd'hui est demain. Et il sait que ce qui chante et contemple en vous vit toujours à l'intérieur des frontières de ce premier instant qui éparpillera les étoiles dans le firmament. Qui parmi vous ne ressent pas que la force de son amour est sans limite ? Et pourtant, qui parmi vous ne ressent pas que ce même amour, bien qu'illimité, se condense au centre de son existence, ne pouvant plus donner libre cours à une autre pensée d'amour ni à un autre geste d'amour ? Le temps n'est-il pas comme l'amour, sans césure ni cadence ? Mais si dans votre pensée vous devez mesurer le temps en saison, que chaque saison enlace toutes les autres, que chaque jour garde souvenance de sa veille en la serrant fort dans ses bras, et que chaque jour languisse après son lendemain en lui tendant bien loin ses mains. Tu as provoqué l'existence du temps en entrant dans ta perspective actuelle et en l'assumant. Tu utilises cette perspective comme un outil pour explorer et examiner à fond tes expériences une à une plutôt que d'un seul coup. La vie est un seul et même événement, un événement cosmique qui est en train d'arriver maintenant. Tout cela est en train d'arriver, partout. Il n'y a d'autre temps que maintenant. Il n'y a d'autre lieu qu'ici. Ici et maintenant se trouve tout dans tout ce qui existe. Mais tu as choisi de faire l'expérience dans ses moindres détails de la magnificence de l'ici et maintenant et de ton soi divin en tant que créateur, ici et maintenant, de cette réalité. Il n'y avait que deux façons, deux champs d'expérience, à partir desquels tu pouvais le faire, le temps et l'espace. Si magnifique était cette pensée que tu as littéralement explosée de délices. Dans cette explosion de délices fut créé l'espace entre les parties de toi et le temps qu'il fallait pour passer d'une partie de toi-même à une autre. Ainsi, tu t'es littéralement éclaté pour te voir en morceaux. On peut dire que tu étais si heureux que tu as éclaté en morceaux. Et depuis lors, tu les ramasses. Et c'est par l'intermédiaire du stratagème appelé temps que tu as réussi à séparer les morceaux, à diviser l'indivisible et ainsi à le voir et à en faire une expérience plus complète à mesure que tu la crées. Même lorsque tu regardes un objet solide au microscope et que tu vois qu'il n'est pas du tout solide, mais qu'il s'agit en fait de l'agglomération d'un million d'effets différents, de choses diverses qui arrivent en même temps et créent ainsi le grand effet. Ainsi utilises-tu le temps en tant que microscope de ton âme. Considère la parabole de la roche. Il était une fois une roche pleine d'innombrables atomes, protons, neutrons et particules de matière subatomique. Ces particules circulaient continuellement en formant un pattern, chaque particule allant d'ici à là en prenant le temps, mais si rapidement que la roche même semblait ne pas bouger du tout. Elle se contentait d'être elle. Elle était posée là, buvant le soleil, s'imbibant de la pluie, sans bouger. « Qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de moi ?» demanda la roche. « C'est toi, » dit une voix lointaine. « Moi ?» s'exclama la roche. « Mais c'est impossible, je ne bouge pas du tout. Tout le monde peut le constater. »« Oui, de loin, » admit la voix. « De loin, d'ici, tu parais vraiment solide, fixe, immobile. Mais quand je me rapproche, quand je regarde très attentivement ce qui se passe réellement, je vois que tout ce qui comprend ce que tu es bouge. Cela bouge à une vitesse incroyable dans le temps et l'espace, en un pattern particulier qui te crée sous la forme de cette chose appelée roche. Alors tu parais magique. Tu bouges et tu es immobile en même temps. Mais, demanda la roche, où est l'illusion? L'unité, l'immobilité de la roche, ou la séparation et le mouvement de ses parties? Ce à quoi la voix lointaine répondit. Alors, quelle est l'illusion? L'unité, l'immobilité de Dieu, ou la séparation et le mouvement de ses parties? Et je te dis ceci, sur cette pierre, je bâtirai mon église, car c'est la pierre de l'éternité. C'est la vérité éternelle qui ne laisse aucune pierre en place. Je t'ai déjà expliqué tout cela dans cette petite histoire, c'est la cosmologie. La vie est une série de mouvements infinitésimaux, d'une rapidité incroyable. Ces mouvements n'affectent aucunement l'immobilité de l'état d'être de tout ce qui est. Cependant, comme pour les atomes de la pierre, c'est le mouvement qui crée l'immobilité sous ton regard même. À cette distance, il n'y a aucune séparation. Il ne peut y en avoir, car tout ce qui est tout ce qu'il y a, et il n'y a rien d'autre. Je suis celui qui bouge sans bouger. De la perspective limitée à partir de laquelle tu vois tout ce qui est, tu te vois comme séparé et à part, non pas comme un même être impossible à bouger, mais comme un grand nombre d'êtres en mouvement constant. Les deux observations sont justes, les deux réalités sont réelles. À ce stade du développement, le moment est venu pour le disciple de la science de l'occulte de surmonter l'illusion qui lui vient des limites de sa personne. Ce qu'il y a en dedans de sa personnalité, il peut maintenant l'apercevoir comme faisant partie du monde extérieur, au même titre qu'il considérait auparavant comme monde extérieur tout ce qui agissait sur ses sens. Grâce à l'expérience concrète, il apprend peu à peu à se traiter lui-même comme il traitait autrefois les êtres de son entourage. pouvoir provient de la force intérieure. La force intérieure ne provient pas du pouvoir brut. Cela, la majeure partie de l'humanité le comprend à rebours. Sans force intérieure, le pouvoir est une illusion. Sans unité, la force intérieure est un mensonge. Un mensonge qui n'a pas servi les hommes, mais qui s'est néanmoins incrusté dans votre conscience. Car vous croyez que la force intérieure naît de l'individualité et de l'état de la séparation, et ce n'est tout simplement pas le cas. La cause de votre dysfonction et de vos souffrances provient du fait que vous êtes séparés de Dieu et les uns des autres. Siddhartha était devenu un commerçant habile. Il savait user de sa puissance sur les hommes et s'amuser avec la femme. Il portait de beaux habits, commandait à de nombreux serviteurs et se baignait dans des eaux parfumées. Il avait appris à se nourrir de mets délicats soigneusement préparés. Il mangeait aussi du poisson, de la viande, des oiseaux, des épices et des douceurs. Et à boire le vin qui rend paresseux et fait oublier. Il avait appris à jouer aux dés, sur un échiquier, à apprécier l'art des danseuses, à se faire porter un palanquin, à partir dans un lit moelleux. Mais toujours, il s'était senti différent des autres hommes, supérieur à eux. Toujours, il les avait regardés avec un peu d'ironie, avec un peu de dédain moqueur que ressentit toujours un samana pour ceux qui vivent dans le monde. Quand Kamaswami était indisposé, quand il était de mauvaise humeur, quand il se sentait offensé, quand il était tourmenté par ses soucis d'affaires, Siddhartha le considérait toujours d'un air de pitié dédaigneuse. Ce ne fut que lentement, insensiblement, à mesure que s'écoulait la saison des moissons et celle des pluies, que son ironie commença à se lasser et le sentiment de supériorité qu'il affichait à s'émousser. Ce fut lentement aussi que Siddhartha, au milieu de ses richesses toujours croissantes, prit lui-même un peu de manière des autres hommes, de leur puérilité et de leur pusillanimité. Et pourtant, il leur portait envie, et ce, d'autant plus qu'il leur ressemblait davantage. La chose qu'il leur enviait le plus, parce qu'elle lui faisait entièrement défaut, c'était l'importance qu'ils savaient donner à leurs existences, la passion qu'ils mettaient à leur plaisir et à leur peine, le bonheur anxieux mais doux qu'ils trouvaient à leur éternelle manie amoureuse. Ces hommes s'attachaient toujours plus à eux-mêmes, aux femmes, à leurs enfants, à l'honneur ou à l'argent, à leurs projets ou à leurs espérances. Mais c'est justement ce qu'il n'apprit pas d'eux, cette joie naïve, cette innocente folie. Il n'apprit d'eux que ce qui les rendait désagréables et faisait déjà l'objet de tout son mépris. Il lui arrivait de plus en plus fréquemment, quand il avait passé une soirée en société, de rester longtemps au lit le matin, alourdi et fatigué. Il lui arrivait d'être irascible et impatient. Le monde s'était emparé de lui. Le plaisir, la convoitise, l'indolence et finalement le vice qui lui avait toujours semblé le plus méprisable de tous et qu'il avait toujours haï et tourné en ridicule, la cupidité. Le besoin de posséder, l'attachement aux richesses avait fini par le dominer et n'était plus pour lui un jeu et une futilité, comme autrefois, mais une chaîne et un fardeau. Agis comme si tu n'étais séparé de rien ni de personne et tu guériras ton monde demain matin. Voilà le plus grand secret de tous les temps. C'est la réponse que l'homme cherche depuis des millénaires. C'est la solution qu'il a cherchée, la révélation qu'il a appelée de ses prières. Agissez comme si vous n'étiez séparé de rien et vous guérirez le monde. Comprenez qu'il s'agit de pouvoir avec et non de pouvoir sur. Thank you. l'orateur dit « Parle-nous de la liberté ». Et il répondit « À la porte de la cité et au coin du feu dans vos foyers, je vous ai vu vous prosterner et adorer votre propre liberté, comme des esclaves qui, devant un tyran, s'humilient et bien qu'il les terrasse, le glorifie. Dans le jardin du temps et dans l'ombre de la citadelle, j'ai vu les plus libres d'entre vous porter leur liberté comme un boulet à traîner. Et en moi, mon cœur saigna. Vous ne pourrez être libre que si le désir même de quérir la liberté devient votre propre harnais. Et si vous cessez d'en parler comme d'un but à atteindre et d'une fin en soi. Vous ne serez réellement libre tant que vos jours ne seront pas chargés de soucis et que l'indigence de la souffrance ne pèseront pas sur vos nuits. Lorsque votre vie sera sainte de ses contraintes, dès lors au-dessus d'elle, vous vous élèverez nu et délié. Et comment pourriez-vous vous élever au-dessus de vos jours et de vos nuits si vous ne brisiez pas les chaînes que vous avez vous-même à l'aube de votre esprit attachées autour de votre midi? En vérité, ce que vous appelez liberté est la plus solide de ces chaînes, même si ces maillons qui brillent au soleil éblouissent vos yeux. Et qu'est-ce que la liberté, sinon des fragments de vous-même que vous cherchez à écarter? Si vous croyez que la clé de la liberté se trouve derrière une loi injuste qu'il suffit d'abolir, dites-vous que cette loi a été inscrite de votre propre main, sur votre propre front. Vous ne pouvez l'effacer ni en brûlant tous vos livres de loi, ni en lavant les fronts de vos juges, dussiez-vous y déverser la mer entière. Et si vous pensez qu'en détrônant un despote, vous retrouverez votre liberté, voyez d'abord si son trône érigé en vous-même est bel et bien détruit. Car nul tyran ne pourra dominer des sujets libres et fiers que s'il existe déjà une tyrannie dans leur liberté et une honte dans leur fierté. Si vous cherchez à chasser vos soucis ou à dissiper vos craintes pour libérer ainsi votre esprit, sachez que vous-même les avez choisis avant que vous ne les ayez subis. Et que le siège de votre frayeur est dans votre cœur et non point dans la main de celui qui vous fait peur. En vérité, tout ce qui se meut en vous est dans une constante semi-étreinte. Ce qui vous réjouit et ce qui vous terrifie. Ce que vous haïssez et ce que vous chérissez. Ce que vous désirez saisir et ce que vous cherchez à fuir. Vos actes sont des jeux d'ombre et de lumière en couples enlacés. Toute ombre se dégrade, se fond et se meurt à l'arrivée d'une lumière. Et toute lumière qui s'attarde derrière ses lisières devient alors un ombre pour une autre lumière. Ainsi en est-il de votre liberté. Dès lors qu'elle se désenchaîne, devient-elle elle-même les chaînes d'une plus grande liberté. Dans la vie, tu te trouves devant trois choix. Tu peux laisser tes pensées non maîtrisées créer l'instant. Tu peux laisser ta conscience créative créer l'instant. Ou tu peux laisser la conscience collective créer l'instant. Des anciens de la cité dit « Parle-nous du bien et du mal. » Et il répondit « Du bien en vous, je peux vous parler, mais non du mal. Car qu'est-ce que le mal, sinon le bien torturé par sa faim et sa soif? En vérité, le bien ira jusqu'à fouiller le fond ténébreux des cavernes s'il faut calmer sa faim. Et s'il faut étancher sa soif, il ira jusqu'à boire dans l'eau qui croupit au fond d'une mare. Vous êtes bon lorsque vous ne faites qu'un avec vous-même, sinon vous n'êtes pas mauvais pour autant. Car si votre foyer est désuni, il n'est pas un repère de brigands, mais seulement un foyer désuni. Et votre navire sans gouvernail au milieu d'un champ d'écueils peut être à la merci du vent et des courants sans qu'il sombre pour autant. Vous êtes bon, si vous vous dévouez pour donner de vous-même. Cependant, vous n'êtes pas mauvais si vous en tirez profit pour vous-même. Car lorsque vous vous démenez pour réaliser un gain, Vous êtes semblable à cette racine qui s'agrippe à la terre et se nourrit à son sein. Certes, le fruit n'ose point dire à la racine « Sois comme moi, mûre et juteuse, toujours généreuse. » Car de même qu'il est nécessaire au fruit de se donner, il est nécessaire à la racine de recevoir. Vous êtes bon lorsque vous parlez avec un esprit en plein éveil. Pourtant, vous n'êtes pas mauvais quand vous marmonnez en plein sommeil. Et n'est-ce pas à force de balbutier que l'enfant finit par parler ? Vous êtes bon lorsque vous marchez d'un pas ferme vers un but que vous vous êtes fixé. Pourtant, vous n'êtes pas mauvais si vous y allez en clochant du pied. Car même ceux qui boitent ne marchent pas à reculons. Mais vous qui jouissez d'une saine membrure et d'une leste allure, gardez-vous de claudiquer devant les infirmes en signe de compassion. Ainsi, il est mille et un chemins à prendre pour être bon, et vous n'êtes pas mauvais si vous ne prenez pas le bon. Mais vous vous plaisez à vous y arrêter pour flâner et papillonner. Il est regrettable que les cerfs ne puissent enseigner aux tortues ce qu'est la vélocité. En votre désir de quérir votre moi géant, réside le bien en vous, et ce désir vous habite tous. Mais chez certains, ce désir est un torrent qui, dévalant vers la mer, charrie les secrets des collines et les champs des forêts. Et chez d'autres, il n'est qu'un ruisselet nonchalant qui se perd en méandre et s'attarde à atteindre le rivage. Mais que celui qui est ambitieux ne dise pas à celui qui veut peu « Pourquoi es-tu si lent et pourquoi t'arrêtes-tu si souvent ?» Car celui qui est véritablement bon ne demande pas à celui qui est sans habit. Où sont donc tes vêtements, ni à celui qui a sans abri ? Qu'est devenue ta maison ? Chaque moment où l'on prend du recul pour percevoir dans notre conscience tout ce qu'elle renferme de jugements négatifs, de critiques et de condamnations à l'égard du monde et de la vie, chacun de ces moments nous rapproche de la connaissance supérieure. Nous nous élevons rapidement si en de tels moments nous ne remplissons notre conscience que de pensées qui nous comblent d'admiration, d'estime et de respect envers le monde et la vie. Celui qui a l'expérience dans ces domaines sait qu'à chacun de ces moments, s'éveille en l'homme des forces qui sinon demeurent assoupies. De ce fait, l'œil spirituel de l'homme s'ouvre. Il commence alors à discerner autour de lui des choses qu'il n'était pas en mesure de voir auparavant. Il commence à comprendre qu'il n'avait perçu jusqu'ici qu'une partie seulement du monde qui l'entoure. L'homme qui vient à sa rencontre lui apparaît maintenant sous une forme entièrement différente. Certes, cette règle de vie à elle seule ne le rend pas encore capable de percevoir, par exemple, ce qui est décrit à propos de l'aura humaine. Pour cela, une discipline encore plus élevée est nécessaire, mais il peut précisément s'élever à cette discipline supérieure s'il a préalablement développé énergétiquement la faculté de dévotion. L'entrée du disciple de la science de l'occulte sur le sentier de la connaissance s'accomplit sans bruit, inaperçu du monde extérieur. Personne n'a besoin de remarquer en lui le moindre changement. Il remplit ses devoirs comme avant, il s'occupe de ses affaires comme à l'ordinaire. La transformation s'opère uniquement dans l'intimité de l'âme, soustraite aux regards extérieurs. D'abord, l'attitude fondamentale de la dévotion à l'écart de tout ce qui est vénérable s'étend sur l'ensemble de la vie affective de l'homme. C'est précisément au sein de ce sentiment fondamental là que toute la vie de son âme trouve son point central. De même que le soleil anime de ses rayons tout ce qui est vivant, de même l'attitude de vénération anime tous les sentiments de l'âme chez le disciple de la science de l'occulte. Au début, il n'est pas facile pour l'homme de croire que des sentiments comme la déférence, le respect, aient quelque chose à faire avec sa faculté de connaître. La raison en est que l'on est enclin à considérer la connaissance comme une faculté en soi, n'ayant aucun rapport avec ce qui se déroule par ailleurs dans l'âme. On ne songe point que c'est précisément l'âme qui connaît. Les sentiments sont pour l'âme ce que les substances servant d'aliments sont pour le corps. Si l'on donne au corps des pierres au lieu de pain, son activité s'éteint. S'il en va de même pour l'âme, pour elle, la vénération, L'estime et la dévotion sont des substances nutritives qui lui assurent santé et vigueur. Vigueur avant tout pour l'activité de connaissance. Le dédain, l'antipathie, le dénigrement à l'écart de ce qui est estimable provoquent la paralysie et la mort de l'activité de connaissance. Pour l'investigateur du monde spirituel, ce fait est visible sur l'aura. Une âme qui s'assimile de sentiments de vénération et de dévotion entraîne une modification de son aura. Certaines tonalités spirituelles tirant sur le rouge-jaune ou rouge-brun disparaissent et sont remplacées par du rouge-bleu. Il s'ensuit que la faculté de connaître s'ouvre. Elle reçoit de nouvelles de certains événements de son environnement dont elle ne pressentait même pas l'existence auparavant. La vénération éveille dans l'âme une force de sympathie par laquelle nous attirons à nous certaines qualités des êtres de notre entourage, qualités qui, sans cela, demeureraient cachées. Ce que l'on peut atteindre au moyen de la dévotion devient encore plus efficace quand un autre genre de sentiment s'y ajoute. Il consiste en ceci. L'homme apprend à se livrer de moins en moins aux impressions du monde extérieur. Il développe en revanche une vie intérieure plus active. Celui qui, dans le monde extérieur, se précipite d'une impression à l'autre et cherche sans cesse de la distraction, ne saurait trouver le chemin qui mène à la science de l'occulte. Le disciple ne doit pas devenir insensible à l'égard du monde extérieur, certes, mais c'est la richesse de sa vie intérieure qui doit le diriger dans son choix des impressions auxquelles il se livre. Pour un homme, aux sentiments riches et profonds, qui traverse un beau paysage de montagne, les expériences diffèrent de celles d'un être aux sentiments indigents. Seul ce qui est vécu à l'intérieur peut nous donner la clé des beautés du monde extérieur. L'un navigue en mer et n'a que peu d'expérience intérieure qui parcourt son âme, tandis que l'autre ressent le langage éternel de l'esprit de l'univers. Les mystères cachés de la création se dévoilent à lui. Il faut avoir appris à manier ses propres sentiments et ses représentations si l'on veut développer un rapport substantiel avec le monde extérieur. Dans toutes ces manifestations, le monde extérieur est saturé de magnificence divine. Mais pour la trouver alentour, il faut préalablement avoir fait en sa propre âme l'expérience du divin. Que je ne sache rien de moi-même, que Siddhartha soit demeuré si étranger et inconnu à lui-même, cela provient d'une cause unique. Je me faisais peur à moi-même. Je me fuyais moi-même. Je cherchais Atman, Brahma. J'étais prêt à disséquer mon moi, à lui arracher chacune de ses pelures pour découvrir tout au fond le noyau qu'elle recouvrait. L'Atman, la vie, le divin, le dernier. Mais au lieu de cela, c'est moi qui me suis perdu à moi-même. Siddhartha leva les yeux et regarda autour de lui. Un sourire éclaira son visage, et dans tout son être, il eut la sensation d'un homme que le réveil arrache brusquement de ses rêves. Peu après, il se remit en marche, rapidement, comme quelqu'un qui sait ce qu'il va faire. « Oh !» pensa-t-il en respirant à plat poumon. « Maintenant, je ne laisserai plus échapper mon Siddhartha. Je ne me remettrai plus pour penser et même pour vivre, à chercher l'Atman et à m'inquiéter des souffrances du monde. Je ne vais plus me torturer l'esprit et le corps pour découvrir un secret derrière des ruines. Pas plus Yegaveda que Atharva Veda, ni les ascètes, ni une doctrine quelconque ne m'enseigneront rien désormais. C'est de moi seul que j'apprendrai, que je serai l'élève, c'est par moi que je saurai le mystère qu'est Siddhartha. » Il regarda autour de lui, comme s'il voyait le monde pour la première fois. Il était beau, le monde. Il était varié, étrange, énigmatique. Là du bleu, ici du jaune, là-bas du vert. Des nuages glissaient dans le ciel et le fleuve sur la terre. La forêt se hérissait et les montagnes. Tout était beau, tout était plein de mystère et d'enchantement. Et au milieu de tout cela, lui, Siddhartha, réveillé, en route vers lui-même. Toutes ces choses, une à une, ce jaune, ce bleu, ce fleuve, Cette forêt pénétrait en lui par ses yeux pour la première fois. Ce n'était plus le charme de Maras, ce n'était plus le voile de la Maya. Ce n'était plus la diversité accidentelle et dénuée du sens du monde phénoménal. Indigne de la profonde pensée du Brahman qui le dédaigne et n'en recherche que l'unité. Pour lui, maintenant, le bleu était le bleu, le fleuve était le fleuve. Et bien que dans ce bleu et dans ce fleuve, l'idée d'unité et de divinité vécue encore cachée dans l'âme de Siddhartha, il n'entrait pas moins dans le caractère du divin, d'être jaune ici, bleu là-bas, d'être ciel, d'être forêt, comme il était lui, Siddhartha, en ce lieu. Le sens et l'être n'étaient point quelque part derrière les choses, mais en elles, en tout. Les procédés, les pratiques et l'utilisation de certaines substances visent en somme à provoquer chez le sujet normal un état organique et psychique particulier qui se produit spontanément chez les sujets métapsychiques et qui semble être une condition indispensable à l'apparition des phénomènes paranormaux. Cet état, que l'on appelle l'état de transe, assure la mise en jeu des pouvoirs cryptiques et l'organisme ou de l'esprit, et en particulier en ce qui concerne les phénomènes subjectifs ou psychologiques, l'émergence au niveau de la conscience des informations paranormales. La transe peut s'exprimer, du point de vue psychologique, par un léger obscurcissement de la conscience, ou, au contraire, par l'inconscience totale, pouvant être accompagnée d'une crise convulsive. Allons, se dit Siddhartha, je suis ma pente. Cette pensée le fit rire, et comme il prononçait ces mots, ses regards s'arrêtèrent sur le fleuve. Lui aussi glissait sur sa pente, poursuivant sa course à travers les campagnes, descendant toujours en faisant entendre sa gaie chanson, son joyeux murmure. Cette constatation lui plut et il envoya au fleuve un sourire amical. N'était-ce pas ce même fleuve dans lequel il avait voulu se noyer, un jour, il y avait peut-être un siècle ? Eh bien, cela n'était-il qu'un rêve ? Quelle drôle d'existence que la mienne, pensait-il ? Et par quel singulier détour m'a-t-elle fait passer ? Quand j'étais petit garçon, je ne m'occupais que des dieux et des sacrifices. Jeune homme, je ne songeais qu'aux exercices spirituels, à la réflexion et aux méditations. Je cherchais Brahma et je vénérais l'Éternel dans Atman. Un peu plus tard, je me joignis aux moines pénitents, vivant dans la forêt, souffrant de la chaleur et du froid. J'appris à jeûner et à tuer lentement mon corps. Ensuite, ce fut la connaissance qui se manifesta à moi d'une façon si miraculeuse que la doctrine du grand Bouddha et la science de l'unité du monde que je m'assimilais au point de l'identifier avec moi-même. Mais j'ai dû aussi m'éloigner de cette science, comme je me suis éloignée de Bouddha. Je rencontrai Kamala, qui m'enseigna les plaisirs de l'amour. J'appris avec Kamaswami à faire du négoce. Je gagnais de l'argent, je le gaspillais. J'appris à faire bonne chère et à flatter mes sens. J'employais des années à me gâter l'esprit, à désapprendre l'art de penser, à oublier l'unité. Ne dirait-on pas que peu à peu, et par un long détour, je me suis évertué à faire de l'homme que j'étais, du penseur, un bon enfant. Et pourtant ce détour doit avoir du bon, puisque l'oiseau qui chantait autrefois dans ma poitrine n'est pas mort. Mais quel chemin j'ai suivi ! Quand je pense qu'il m'a fallu passer par tant de sottises, par tant de vices, d'erreurs, de dégoûts, de désillusions et de misères pour en arriver à n'être plus qu'un enfant et à tout recommencer. Mais c'était pour mon bien. Mon cœur me le dit, et la joie qui est dans mes yeux me le dit aussi. Il m'a fallu vivre dans le désespoir, m'avilir jusqu'à la plus lâche des pensées, celle du suicide, pour obtenir mon pardon, entendre de nouveau Om, goûter le vrai sommeil et le véritable réveil. Il m'a fallu passer par la folie pour arriver jusqu'à Atman. Il m'a fallu succomber au péché pour renaître à la vie. Où la route que je suis me conduira-t-elle ? N'est-elle pas absurde, cette route? Ne me mène-t-elle pas en courbe, peut-être même en cercle? Qu'elle soit comme elle voudra, je la suivrai. Il se sentait gonflé d'une joie indicible. D'où te vient cette allégresse? Demanda-t-il à son cœur. Serait-ce de ce long et si bienfaisant sommeil? Ou de la parole homme que je prononçais? Ne serait-ce pas plutôt de m'être échappé, d'être parti sans idée de retour et de me sentir maintenant aussi libre que l'oiseau dans l'espace? Oh, quelle bonne chose que cette fuite, que cette liberté retrouvée! Comme ici l'air est bon et pur, et quel plaisir de l'aspirer! Là-bas où j'étais, on ne respirait que des odeurs d'onguents, d'épices, de vin, de toutes sortes de choses inutiles et de paresse. Que je l'ai donc haï, ce monde de riches, de viveurs, de joueurs. Que je me suis donc haï moi-même de rester si longtemps dans cette affreuse société. M'y suis-je assez vilipendé, assez sacrifié, empoisonné, torturé? Ce n'est pas tout. J'y suis encore devenu vieux et méchant. Et moi qui m'imaginais volontiers que Siddhartha était un sage. Désormais, cela ne m'arrivera plus. En vérité, je suis content et fier d'avoir mis fin, comme je l'ai fait, à cette haine que j'éprouvais contre moi-même, en même temps qu'à l'existence stupide et vide que je menais. Je te félicite, Siddhartha. Après toutes tes années de démence, tu as eu enfin une idée raisonnable, et tu as fait quelque chose de bien. Tu as entendu chanter le petit oiseau dans ta poitrine, et tu as obéi à sa voix. C'est ainsi qu'il se louait et témoignait sa satisfaction de lui-même, tout en prêtant l'oreille aux plaintes de son estomac que la faim tiraillait. Il sentait bien que dans ces derniers temps, et surtout dans ces derniers jours, il avait vidé jusqu'à la dernière goutte le contenu amer de la coupe, pour vomir ensuite toute la misère dans un hoquet de désespoir et de mort. Et c'était bien ainsi. Il aurait pu rester longtemps encore avec Kamaswami, continuer à gagner et à gaspiller de l'argent, à se gaver de toutes sortes de mets, en laissant mourir sa pauvre âme altérée. Il aurait pu demeurer longtemps encore dans cet enfer où régnaient la mollesse et la volupté, si la détresse et le désespoir ne l'en eussent pas arraché pour le conduire au paroxysme de la crise sur la rive de ce fleuve où il décida de mettre fin à ses tortures. Avoir été en proie à ce désespoir, à ce profond écœurement de tout, et n'y avoir point cédé, avoir senti vivre encore en lui le petit oiseau, source et vie de son âme, c'est ce qui faisait maintenant sa joie et éclairait d'un rayon de bonheur son visage sous ses cheveux grisonnants. « Il est bon, se répétait-il, d'avoir appris à ses dépens ce qu'on a besoin de savoir. Même quand j'étais enfant, je n'ignorais pas que les plaisirs du monde et des richesses ne valent pas grand-chose. Je le savais depuis longtemps. Mais ce n'est qu'à présent que j'en ai fait l'expérience. Maintenant, j'en suis instruit. Je le suis non seulement par ma mémoire, mais par mes yeux, par mon cœur, par mon estomac, et c'est tant mieux pour moi. » Longtemps encore, il demeura plongé dans ses réflexions, écoutant le chant joyeux de son petit oiseau. Il n'était donc pas mort comme il croyait l'avoir remarqué. Non, mais autre chose en lui était mort, qui demandait depuis longtemps à mourir. N'était-ce pas justement ce qu'il avait essayé de détruire pendant les années si ardemment consacrées à la pénitence? N'était-ce pas son moi, ce moi mesquin, anxieux et orgueilleux contre lequel il avait lutté tant d'années, qu'il avait toujours vaincu et qui renaissait après chaque victoire pour lui interdire la joie et lui inspirer la crainte? N'était-ce pas lui qui, aujourd'hui, avait été définitivement anéanti là, dans la forêt, sur le bord de ce joli fleuve? Et n'était-ce pas cet anéantissement qui le rendait maintenant aussi confiant qu'un enfant, qui bannissait de lui la crainte et le comblait de joie? Alors Siddhartha commença à se rendre compte des raisons pour lesquelles, quand il était brahmane et moine pénitent, il avait lutté en vain contre ce moi. Ce qui l'avait empêché de vaincre, c'était l'abus de la science, des vers sacrés, des prescriptions rituelles, de la mortification, de l'action et du zèle. Il avait été orgueilleux parce qu'il était toujours le plus intelligent, toujours le plus assidu, toujours en avance sur tous les autres. C'était lui le prêtre, le sage. Et c'était dans ce sacerdoce, dans cet orgueil, dans cette intelligence que s'était glissé son moi, qu'il s'était installé, tandis qu'il s'imaginait pouvoir le tuer par les jeûnes et les pénitences. À présent, il voyait bien que la voix mystérieuse avait eu raison et qu'aucun maître n'aurait jamais pu le sauver. C'est pour cela qu'il avait dû aller dans le monde où il s'était perdu au milieu des plaisirs et des richesses, auprès des puissants et des femmes, qu'il était devenu commerçant, joueur, buveur et cupide. Jusqu'à ce que le prêtre et le samana périssent en lui. C'est pour cela qu'il avait dû continuer à supporter ces affreuses années d'une existence écœurante, absurde et vide, jusqu'à ce qu'il tombât dans le désespoir le plus amer, jusqu'à ce que l'homme de débauche, l'homme avide de richesse qu'était Siddhartha fût mort. Et il était mort en effet, car du sommeil de l'ancien Siddhartha, un nouveau Siddhartha était né. Celui-là aussi deviendrait vieux, et il lui faudrait aussi mourir un jour. Siddhartha passerait, comme passe toute chose. Mais pour l'instant, il se sentait plein de jeunesse, et comme un enfant, il s'abandonnait tout entier à la joie. Ses pensées occupaient son esprit, tandis que toujours souriant, il écoutait les bruits de son estomac vide et le bourdonnement d'une abeille. Satisfait, il contemplait l'eau du fleuve qui coulait et jamais il n'y avait pris tant de plaisir. Jamais il n'avait discerné d'une façon si agréable et si claire la voix et l'enseignement de cette eau fuyante. Il crut comprendre que le fleuve avait quelque chose de particulier à lui dire, quelque chose qu'il ignorait encore et qu'il attendait. Et c'est dans ce fleuve que Siddhartha avait voulu terminer ses jours. En réalité, c'était bien ces flots bouillonnants que l'ancien Siddhartha, fatigué et désespéré, s'était enseveli aujourd'hui. Mais l'homme nouveau qu'il était les aimait déjà profondément et, intérieurement, décidait de ne pas s'en éloigner de sitôt. Cryptique de l'esprit se révèle aussi chez quelques artistes et écrivains dont la production spontanée apparaît comme étant l'émergence dans le domaine des idées conscientes, d'une élaboration psychique essentiellement accomplie dans les profondeurs de l'être et à laquelle la conscience claire ne prend parfois qu'une faible part. Dans le domaine musical, l'un des cas les plus étonnants de création subconsciente a été fourni par Georges Aubert. Bien que médiocre pianiste et ignorant l'harmonie, la composition, la fugue et le contrepoint, il improvisait au piano en état de transe de remarquables compositions musicales qui, selon lui, lui étaient inspirées par Méhul, Beethoven, Mendelssohn, Mozart, Wagner, Bach, Schubert. Une série d'expériences réalisées à l'Institut Général Psychologique démontrèrent parfaitement que les créations de Georges Aubert dépendait entièrement de son activité subconsciente. 4 moyens furent employés pour lutter contre la participation du conscient. La lecture, le calcul, la conversation, l'audition. La lecture. Pendant l'exécution du morceau, il fut placé sur le pupitre un article de journal traitant de tuberculose. Georges Aubert fut invité à le lire à haute et intelligible voix. Ce qu'il fit, et cependant, la pièce musicale commencée continua imperturbablement, sans interruption, dans la justesse, la mesure, le style et les nuances. L'expérience fut plusieurs fois renouvelée. Le calcul. Dans les mêmes conditions, Georges Aubert dut résoudre mentalement des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Néanmoins, l'improvisation musicale se déroula sans faille d'aucune sorte. La conversation. Ici, ce furent des conversations suivies portant sur des sujets variés que Georges Aubert dut soutenir. Elles n'eurent aucune influence défavorable sur l'inspiration musicale. L'audition. Cette expérience, très bien conçue, aurait infailliblement réussi à déjouer tout subterfuge si Georges Aubert avait été de mauvaise foi. 2 phonographes furent placés derrière lui, avec chacun un tube auditif en caoutchouc. Alors qu'il commençait à jouer une barcarolle, qui, d'après lui, était inspirée par l'esprit de Mendelssohn, le tube du phonographe droit donnant la marche des trompettes d'Aïda fut introduit dans l'oreille droite et le tube du phonographe gauche faisant entendre la marche indienne de Sélénique fut placé dans l'oreille gauche. Malgré l'effarante cacophonie qui ressentit à partir de ce moment dans le cerveau de Georges Aubert, la barcarolle ne subit aucune altération. Ta propre expérience ne t'enseigne qu'une chose, qu'aimer pleinement chaque personne est ce que tu peux faire de plus joyeux. Mais tes parents, tes maîtres, tes prêtres prêchent autre chose, que tu ne peux aimer ainsi qu'une personne à la fois. Et nous ne parlons pas seulement de sexe. Si tu estimes qu'une personne est aussi spéciale qu'une autre d'une façon ou d'une autre, on te fait souvent sentir que tu as trahi cette autre. Ainsi, tu n'exprimes pas d'amour véritable, mais une variété contrefaite. Toute tentative de restreindre l'expression naturelle de l'amour est un reniement de l'expérience de la liberté, donc un renoncement de l'âme même, car l'âme est la liberté personnifiée. Dieu est liberté par définition, car Dieu est sans limite et sans restriction d'aucune sorte. L'âme est Dieu en miniature. Par conséquent, l'âme se rebelle chaque fois qu'on lui impose des limites et meurt chaque fois qu'elle accepte des limites extérieures. Dans cet esprit, la naissance elle-même représente une mort, et la mort, une naissance. Car, à la naissance, l'âme se trouve contrainte par les affreuses limites d'un corps, et au moment de la mort, elle échappe à nouveau à ses contraintes. Elle fait de même durant le sommeil. Ayant retrouvé la liberté, l'âme vole, et se réjouit à nouveau dans l'expression de l'expérience de sa véritable nature. Mais sa vraie nature peut-elle être exprimée et vécue lorsqu'elle est avec le corps? C'est la question que tu poses, et elle mène à la raison même et au but de la vie elle-même. Car si la vie dans le corps n'est rien de plus qu'une prison ou une limite, alors à quoi bon? Et quelle peut être sa fonction, et même sa justification? Puis, un ermite, qui ne visitait la cité qu'une fois l'an, s'approcha de la foule et dit : Parle-nous du plaisir. Et il répondit : Le plaisir est un champ de liberté, mais il n'est pas la liberté. Il est le bourgeon de vos désirs, mais il n'en est pas le fruit. Il est l'appel de la vallée vers le sommet, mais il n'est ni Géhenne ni Éden. Il est celui qui brise sa cage et prend son envol, mais il n'est pas le dôme du ciel. En vérité, le plaisir est un champ de liberté. Oh, combien je désirerais vous voir le chanter de plein cœur, mais je ne souhaiterais point que vous y perdiez votre cœur. Parmi vos jeunes, certains recherchent le plaisir comme s'il était tout dans la vie, et ils sont jugés et corrigés. Plutôt que de leur faire grief et honte, je les laisserai poursuivre leur quête, car ils trouveront le plaisir, mais sauront qu'il n'est point seul. 7 sont ses sœurs, et la moindre d'entre elles est plus belle que le plaisir. N'avez-vous pas entendu parler de cet homme qui, creusant la terre à la recherche de racines, découvrit un trésor? Parmi vos anciens, certains se remémorent leur plaisir avec regret, comme si c'était des erreurs commises en état d'ivresse. Mais le regret ne punit pas l'esprit, il l'assombrit. Il devrait s'en souvenir avec gratitude, comme ils le feraient pour une moisson d'été. Et s'ils sont apaisés dans leurs remords, laissez-leur ce réconfort. Et il en est parmi vous qui ne sont ni jeunes pour la recherche, ni vieux pour la souvenance. Ne voulant ni quérir ni se souvenir, ils fuient tout plaisir, par crainte de négliger l'esprit ou de l'offenser. Et comme ils se plaisent à s'abstenir, n'est-ce pas là leur propre plaisir ? Ainsi trouveront-ils, eux aussi, un trésor, alors qu'ils déterrent des racines avec leurs mains frémissantes. Mais dites-moi, qui peut offenser l'esprit ? Le rossignol viole-t-il la sérénité de la nuit? La luciole défie-t-elle les étoiles? Et votre flamme ou votre fumée étouffe-t-elle le vent? Pensez-vous que l'esprit est un calme étang que vous pouvez troubler avec un bâton? Souvent, en vous privant de plaisir, vous ne faites qu'engranger le désir dans les recoins de votre être. Qui sait si ce qui semble être omis aujourd'hui n'est pas en attente du lendemain? Votre corps connaît bien le legs de son passé et la légitimité de ses droits, et jamais n'acceptera d'être frustré. Votre corps est la harpe de votre âme. Il vous appartient d'en tirer des notes dissonantes ou une douce mélodie. Et maintenant, vous vous demandez en votre cœur, comment distinguer dans le plaisir ce qui est bon de ce qui ne l'est point? Allez donc apprendre dans vos champs et vos jardins ce qu'est le plaisir de l'abeille qui butine le miel et la fleur, mais aussi le plaisir de la fleur qui offre son nectar à l'abeille. Car pour l'abeille, une fleur est source de vie, comme pour la fleur, une abeille est messagère d'amour. Et pour les deux, abeille et fleur, donner et recevoir du plaisir sont un besoin et une extase. Peuple, soyez dans la ronde de vos plaisirs, fleurs et abeilles. Ce qui est illimité. Il n'a ni commencement ni fin, ni avant ni après. L'amour a toujours été, est toujours et sera toujours. Alors l'amour est également toujours. C'est la réalité de toujours. Revenons à un autre mot, la liberté. Car si l'amour est illimité et toujours, alors l'amour est libre. L'amour est ce qui est parfaitement libre. Dans la réalité humaine, tu découvriras que tu as toujours cherché à aimer et à être aimé. Tu découvriras que tu aspireras sans cesse à ce que cet amour soit illimité. Et tu découvriras que tu voudras toujours être libre de l'exprimer. Dans chaque expérience de l'amour, tu chercheras la liberté, l'absence de limites et l'éternité. Tu ne l'obtiendras peut-être pas. Mais c'est ce que tu chercheras. Tu le chercheras parce que c'est ce qu'est l'amour, et au fond de toi, tu le sais, car tu es amour. Et par l'expression de l'amour, tu désires connaître et faire l'expérience de ce qui et de ce que tu es. Tu es la vie, exprimant la vie. Tu es l'amour, exprimant l'amour. Tu es Dieu, exprimant Dieu. Tous ces mots sont donc synonymes. Dis-toi qu'ils représentent la même notion. Dieu, vie, amour, illimité, éternel, libre. Tout ce qui n'est pas dans l'une de ces choses n'est aucune d'elles. Tu es tout cela et tôt ou tard, tu chercheras à faire l'expérience de toi-même en tant que tout cela. Tout dépend à quel moment tu surmontes ta peur. La peur est une fausse preuve qui paraît vraie. C'est ce qui n'est pas. Tu chercheras à faire l'expérience de ce que tu es lorsque tu auras cessé de faire l'expérience de ce que tu n'es pas. Chaque doigt de ta main est différent, mais c'est la même main. L'air de ta maison est le même partout, mais l'air d'une pièce à une autre ne l'est pas et laisse une impression carrément différente. Le même phénomène existe avec les gens. Tous ne font qu'un, mais il n'y a pas deux personnes similaires. Par conséquent, on ne peut aimer deux personnes de la même façon, même si on essayait, et on ne voudrait jamais. Car l'amour est une réponse unique à ce qui reste unique. Alors, Quand tu démontres ton amour à une personne, tu le fais d'une façon qu'il est impossible avec une autre. Tes pensées, tes paroles et tes gestes, tes réponses sont littéralement impossibles à reproduire, uniques, tout comme la personne pour laquelle tu éprouves ces sentiments. Si le temps est venu où tu désires cette démonstration spéciale avec une seule personne, alors choisis-la, comme tu le dis. Annonce-la, déclare-la. Mais fais de ta déclaration une annonce, un instant à un autre, de ta liberté et non de ton obligation continue. Car l'amour véritable est toujours libre et l'obligation ne peut exister dans l'espace de l'amour. Si tu considères ta décision d'exprimer ton amour d'une façon particulière, auprès d'un seul être distinct, comme pour une promesse sacrée à laquelle tu ne manqueras jamais, le jour viendra peut-être où tu feras l'expérience selon laquelle la promesse est une obligation et tu en auras le ressentiment. Mais si tu considères cette décision non pas comme une promesse faite une seule fois, mais comme un choix libre refait à maintes reprises, ce jour de ressentiment ne viendra jamais. Rappelle-toi ceci, il n'y a qu'une promesse sacrée, et c'est de dire et vivre ta vérité. Toutes les autres promesses sont des renonciations à la liberté, et cela ne pourra jamais être sacré. Car la liberté, c'est qui vous êtes. Si tu renonces à la liberté, tu renonces à toi-même, et ce n'est pas un sacrement, c'est un blasphème.